des illustrations sur l'ensemble des pochettes de disques, dont celle-ci, je ne m'attendais pas à la trouver, qui est...
Ah oui.
Ouais, parce que c'est là, alors celle-là je l'ai.
Elle est là.
Et,
c'est Live in Paris.
Ouais, mais il le considère comme un bootleg, ce qui est tout à fait étrange.
Ouais, c'est curieux ça.
Bon,
ouais,
bon. Alors on a décidé de manière unilatérale. Enfin, on n'a pas décidé. On a quand même. On s'est dit qu'on allait vous faire écouter des extraits de concerts. Parce que des extraits de concerts, c'est là où, hein, je pense... Oui,
mais qui accompagnent des vidéos, quoi. Faut dire, c'est ça. Ce sont des concerts qui... C'est l'image, c'est-à-dire que c'est des concerts en image. On fait c'est un peu paradoxal à la radio, mais on va faire de l'image cette fois-ci, plus que d'une certaine manière, plus que du son.
Oui, mais en même temps...
Mais en même temps, l'image explique le son. C'est parce que, ayant revu pas mal de choses sur la technique, par exemple l'instrumental, sur plein de choses, c'est très intéressant.
Alors, on est face à... Alors, on apprend aussi pourquoi et comment il est mort, en réalité. Il y a pas mal d'explications médicales là-dessus. Enfin, on y reviendra. Mais... je reviens toujours à moi. C'est marrant parce que peu de gens parlent de ce concert de Montreux de 75 auquel j'étais, auquel j'ai assisté. Et ça a été un choc absolument incroyable. Et tous les témoignages dans ce bouquin disent la même chose. Et tous ceux qui ont été confrontés à Roland Kirk sur scène ont tous été soufflés dans le vrai sens du terme, c'est vraiment voilà. Et donc moi j'en garde, c'est un des concerts, enfin en plus bon, c'était en 1975, il y avait Mingus, Shep, Jerry Mulligan, Joe Pass, Bill Evans, bon, donc c'était un énorme choc, et celui de Roland Kirk a été vraiment particulièrement colossal. Et je suis content parce que dans la deuxième biographie en français faite par un auteur français dont le titre me reviendra tout à l'heure, il donne tous les titres du concert de Montreux de 75, ouais, dont notamment Miles Maud de Coltrane. Mmh. Et c'est là où je me dis que je n'avais pas rêvé. Alors, je te propose de commencer un peu sur les chapeaux de roue avec le concert de Paris de 72.
Ouais.
Où il commence sur Blue Train de Coltrane. Mmh. Alors, il démarre tout de suite le thème, et après, il y a un long solo de piano, et après, il commence à faire son festival qui est absolument...
Pour apporter une petite touche sur 75, j'ai retrouvé des vidéos des concerts de Downbeat.
Ah oui?
Ouais. Et j'en ai trois. Il y en a un, il joue avec Sonny Rollins.
Oui.
Et j'en ai un autre où il joue tout seul, puisqu'il est invité seul. Et deux avec Sonny Rollins, où il fait Take the A-Train et Pedal Up.
Oui, oui, exact.
Et, c'est d'autant plus fantastique, c'est que malheureusement, un an après à Dortmund, c'est 1976, et là, il a eu son attaque et il continue de jouer, mais bon, on en parlera, je pense. Mais c'est la grande période, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant.
Oui, enfin, moi, je trouve qu'il est impressionnant dès le début.
Oui, mais disons que ça ne fait que ça monte, quoi, son aisance, tout ça.
Oui, oui, oui. Il y a plein d'anecdotes. Ouais. Enfin, on y reviendra. On va écouter déjà le Blue Train. Alors il est avec, je me souviens plus avec qui il est, mais c'est son orchestre habituel. Je crois que c'est Ron Burton.
Ron Burton, il y a Henry Pearson, Richie Goldberg.
Ouais, c'est ça.
Joe Texidor.
Exactement. Eh ben c'est parti, Laurent, si ça veut bien. Thank you. Jazzy, bon, écoutez, on a un souci que nous n'arriverons absolument pas à déterminer pour l'instant. Ce qui est bien embêtant, il faut le dire là tout de suite, parce que je ne sais pas comment on va faire. Enfin bon, donc en attendant qu'on essaye de trouver la solution, on va passer justement le concert parisien
de 70. Celui-là.
De 70, celui-ci que je veux. Voilà, on est vraiment désolé, trahi par la technique. Et donc, il s'agit du concert du 22 février 1970.
Vas-y. La première.
Enchaîne. Pardon, excusez-nous. Donc avec Ron Burton, Vernon Martin à la contrebasse, Jérôme Cooper à la batterie et toujours Joe Texidor aux percussions. Voilà, donc on va commencer par un thème qui s'appelle Sweet Fire. Et donc, ces deux albums, parce qu'en fait, il y a deux albums, là, celui-ci, c'est le volume 2. Nous avions déjà passé un extrait, notamment Petite Fleur à la clarinette, parce que c'était assez étonnant. Et on n'avait pas pu passer cette deuxième partie, donc on va faire en sorte de y arriver, quoi. Voilà, c'est un peu curieux, bizarre. Bon, c'est parti, Laurent.
Sound Roland Kirk and the Vibration Society once again.
Thank you. rouge. De rouge. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. De rouge. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Orgie de silence et de propreté, où celui qui aurait encore quelque chose à dire préfère se taire plutôt que d'avoir à utiliser leur formulaire d'autorisation de délirer. Demain, nous reviendrons avec des revolvers au bout de nos yeux, morts.
Tous ces mots terribles qui font des chansons.
Bonsoir, Jazzlib vous adresse ses meilleurs vœux pour 2026 et vous propose une rediffusion de l'émission du 17 février 2020.
Radio Libertaire 89.4. Alors donc il s'agissait de Blue Train enchaîné avec Jumping at the Woodside. Alors c'est ça aussi qui est important parce que justement depuis très longtemps je m'aperçois que je pense comme Roland Kirk sur l'histoire du jazz. C'est-à-dire que lui il considérait que le mot jazz était péjoratif comme Archie Shepp et d'autres et qu'il s'agissait de la musique classique noire. Et donc en fait il considérait que ce soit Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Duke Ellington et Ornette Coleman ou Coltrane, c'était la même musique en fait. Et qu'elle avait simplement évolué dans le temps. Comme on a Bach et puis on finit avec Stockhausen.
Oui,
voilà. Oui, le problème c'est que le marketing américain et que nous aussi, enfin que le monde entier a suivi, a découpé en tranches. Alors qu'en fait, on devrait avoir une linéarité.
Alors, au niveau de la musique, ce que j'appelle à mes élèves la musique occidentale traditionnelle, ça va du grégorien à la musique contemporaine de nos jours. Et au début, on la coupe en tranches sur la musique du Moyen Âge, la musique baroque, la musique classique, la musique romantique, la musique contemporaine. Et maintenant, on ne sait plus comment l'appeler parce qu'elle est toujours contemporaine, mais on a changé de millénaire, donc on est parfois un petit peu coincé. Donc, je pense que le fait de mettre les choses en tranches est un caractère. Un caractère de culture et de société, et que le jazz n'a pas fait exception, et qu'on a l'habitude d'historiciser les choses en les mettant en tranches. Hein, ça va déjà avec les périodes géologiques et ça se termine avec notre période à nous, quoi. Mais en fait, on a l'habitude de mettre les choses en tranches. C'est très difficile d'évoquer une linéarité, surtout en art, sans la mettre en tranches. On l'a aussi si on prend la peinture. Si on parle des Flamands, si on parle et puis qu'on évolue petit à petit, puis qu'on arrive ensuite à Mondrian ou à Pollock, ben on est bien obligé de voir qu'il y a une évolution et donc on historicise, donc on met forcément des formes de cases parce qu'il y a toute une série de peintres qui correspondent à la période impressionniste. Il y a ceux qui correspondent à l'école de les fauves. Ensuite, donc c'est les pompiers. Il y a tout. Donc c'est compliqué parce que on s'empêche pas de mettre ça dans des cases, quoi. Et je pense que le jazz, malheureusement, n'a pas fait exception. Mais je pense qu'on retrouve ça. Dans les musiques d'Amérique du Sud, on retrouve ça partout. Hein. Je veux dire, même dans le tango, c'est pareil, puisque j'ai fait pas mal de tango. C'est pareil, il y a les périodes, il y a le périclésien, il y a la période avec la voix, la période avant qui est le candombé, après il y a la période avec la voix, après il y a... Et donc, en fait, pour pouvoir mesurer le déplacement et l'évolution d'une musique, on a tendance à créer des cases. Voilà. Mais je pense que, de toute façon, comme toute expression... Alors là, d'un point de vue purement esthétique, hein, le jazz est une expression esthétique. Et donc, elle a ses périodes. Puisqu'en fait, à une période s'enchaîne une autre. C'est pas pour rien qu'on a commencé avec le blues. Et ça, c'est le truc très, très de base. Parce que Coltrane disait, s'il n'y a pas le blues, il n'y a pas de jazz. Donc, la présence du blues est la chose la plus... On peut faire le free jazz le plus débridé qui soit... Ce free jazz le plus débridé continuera à appartenir au jazz si dedans on sent le blues. Mais si le blues n'y est plus, on fait une autre musique qui a son intérêt, etc. Mais on ne peut plus vraiment la taxer de jazz. C'était un peu la pensée de Coltrane.
Oui, mais c'est la pensée de Roland Kirk.
Et c'est aussi la pensée de Roland Kirk.
Oui, c'est ce que lui, il n'est que...
Et donc, on peut dire qu'on est passé du blues, ensuite à la Nouvelle-Orléans, ensuite on est passé au middle, le moyen, puis ensuite il y a eu le bop, puis il y a eu le hard bop, puis il y a le cool, le post-bop, le jazz rock, le jazz funk... On est parti dans différentes écoles et dans différentes cases. Et c'est des groupes de musiciens qui ont créé aussi des familles. Les boppeurs ont créé la famille du bop. Hein, alors, tout le monde a Parker et Dizzy Gillespie comme chef de file, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et puis, guitare, c'est le grand moment, c'est Charlie Christian qui arrive et puis qui donne une nouvelle impulsion à l'interprétation et au jeu. C'est les évolutions. Il y a un avant et un après. Il y a un avant par cœur et un après par cœur. Il y a un avant. On peut pas. Donc, ça, c'est dans l'histoire de l'art, quoi. Hein. On peut pas. Donc. Mais c'est vrai que ça peut être. Je comprends ce que veut dire Roland Kirk parce que on peut penser que c'est une appropriation d'une manière très académique de voir les choses. En fait, je pense que c'est une pensée bêtement humaine d'essayer d'avoir des repères et puis de les mettre dans une certaine ordre chronologique et d'avoir des groupes de familles. Je pense qu'on joue au jeu des sept familles en fait beaucoup plus qu'on ne le croit.
Alors, je voudrais. Revenir sur la petite période de JMS, parce que c'est absolument sidérant. C'est à propos du... Donc, il crée le MJM, c'est-à-dire More Jazz Music on TV. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait que les Blancs qui passaient à la télé. Hein, on est dans les années 60. Et donc, il crée avec Mingus, Roy Haynes, et on dit, voilà... Rassan nous a donné le signal et tout le monde s'est mis à souffler dans les sifflets et autres instruments et ça a gâché toute l'émission. Relata Billy Harper. Donc il s'agissait d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas assez de musique créative noire à la télévision. La première fois, ça fut un choc. Et en fait, tout le monde a vu ça aux nouvelles et comme c'était vraiment choquant, ils ont commencé à se méfier des musiciens. Ensuite, on a fait une nouvelle tentative avec le Johnny Carson Show. Alors, le Johnny Carson Show, qui est pas du tout quelque chose de très connu ici, mais c'était une émission, c'est un peu comme le Drucker, on va dire, où il invitait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ils ont fait une sorte de guet-apens avec Mingus, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait en sorte d'occuper les autres. Ils sont rentrés dans le Johnny Carson Show. Ils ont commencé à jouer. Et ça a été une folie. Et là, on a le bout de musique avec Archie Shepp et tout ça. Et en fait, ils ont complètement dynamité le truc.
Évidemment.
Ils ont tout pété. Parce qu'en plus, puis ils se trimballaient, Roland Kirk, avec un pistolet à blanc, donc il menaçait tout le monde en disant « si tu m'emmerdes ». Donc un jour, il avait pris l'habitude de casser des chaises. Alors il cassait des chaises. Et puis un jour, il lui avait foutu une chaise en fer. C'était Ron Burton qui avait une chaise en fer. Il dit « Ah, t'en as bien chié avec la chaise. » Donc, il a arrêté avec ça. Mais une fois, il a menacé tout le monde. Donc, il tirait au pistolet. Enfin, bon. C'était un type vraiment très, très... Quand il y avait des mecs qui parlaient dans le concert, il s'arrêtait, il descendait, il dit « Bon, si ma musique vous plaît pas, c'est pas grave, je vous rembourse, mais vous foutez le camp. » Donc, il était comme ça. C'était vraiment un mec... Alors, et quand les mecs l'emmerdaient, comme il était... costaud, quoi. Il disait, tu sais, bon, parce qu'il a fait de la lutte quand il était à l'école, donc il dit, on éteint toutes les lumières et on s'affronte, et là tu vas voir, ça va pas être la même. Et donc les mecs fermaient leur gueule, ils partaient, ou ils se faisaient tout petits, enfin c'était vraiment. C'était vraiment.
Ah, mais c'était une période aussi où.
Et donc il était très street fighting, quoi.
Et faut dire qu'avec des gens aussi comme Mingus autour de lui et tout, c'était quand même des...
Ah oui, ça rigolait pas.
Ça rigolait pas. Hein.
Et donc, ils étaient nombreux. Il y avait Roy Haynes, il y avait Mingus, il y avait Dizzy aussi, qui a fait partie de ce J&PM, là, qui était assez hallucinant. Et donc, il y a ce truc-là. Bon, après, ça s'est arrêté. Et donc, en fait, il y avait un autre show aussi, qui était le Merv Griffin Show. Et là aussi, ils ont distribué des sifflets à tout le monde dans la salle. Et donc, tout a été complètement désinglé.
C'était la grande période aux États-Unis aussi où il y avait les happenings et tout ça. Donc, en plus, ils étaient aussi quand même dans un mouvement. C'était assez étonnant parce qu'aux États-Unis, à cette période-là, les mouvements de cet ordre qui est. C'était un peu surréaliste, quoi, en fait. C'est un peu leur période surréaliste. C'est eux qui ont été les plus surréalistes par rapport à... Nous, on a connu les mouvements surréalistes avec énormément aussi de manifestations un peu de cet ordre. Mais là, c'est vraiment... C'est du même ordre, quoi. Mais en même temps, avec une volonté politique. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment l'équité entre l'emploi des orchestres noirs.
Justement,
et des orchestres
c'est exactement blancs, ce qu'il dit. Il dit
Là, il y avait une dimension politique.
Dans sa dernière interview en novembre 77, Rassahan dit que. Il dit ceci, il dit « Les gens s'étonnent que le groupe n'existe plus à propos de J&PM, mais c'était simplement une période à traverser. Je savais que ça ne pouvait pas durer, mais il était important de montrer que le musicien est capable de se remuer, qu'il ne fait pas que se planter des aiguilles dans le bras ou fumer du hache. Ça a permis à montrer à tout le monde que nous sentions vraiment concernés par notre situation. » Voilà, en fait, c'était ça.
Il ne faut pas oublier que ça a donné naissance au mouvement aux États-Unis des musiciens américains refusant l'alcool, la drogue, etc., avec un engagement politique. Parce que c'est vrai que la drogue a été une manière de récupérer les mouvements noirs d'une manière absolument... c'est immonde, mais ils en ont tiré profit, et que donc le mouvement qui accompagne aussi le mouvement des Black Panthers, qui a tous ces mouvements-là, hyper clean, les types, mais alors plus rien, plus d'alcool, plus de, une discipline d'enfer et tout, mais ça c'est dans une volonté politique de, je pense à Duran Redman, je pense à tous ces gens-là qui, non, maintenant on s'est fait avoir, on ne nous aura plus. Et c'est assez vrai, quoi, parce que quand même, il y a un nombre de victimes dans le jazz qui sont des gens qui ont payé le tribut à l'alcool et à la drogue. C'est,
Alors, Roland Kirk, lui, il a tout essayé aussi, sauf l'aiguille dans le bras, mais il a pris de l'acide, on le disait, c'était un peu faire le comparo avec Astérix en disant qu'il était tombé dedans quand il était petit, qu'il disait qu'en fait, il planait toujours tout le temps et que. Voilà, donc il a essayé. Alors, il buvait. Pas mal. C'était un homme à femme. Il y avait beaucoup, beaucoup de nanas. Alors, il était très, très secret par rapport à ça. On ne savait pas. Et puis, il prenait de l'acide à l'époque. Il fumait des pétards. Enfin, bon, Sidney Bechet aussi. Hein. C'est pour ça qu'il s'est fait virer de l'orchestre de Duke Ellington, d'ailleurs.
Oui, parce que Duke Ellington n'admettait pas ni la drogue, ni l'alcool. je ne sais plus quel tromboniste comme ça en séance. J'ai plus son nom, hein, ça va me revenir. C'était, et il avait un tromboniste, parce qu'il vérifiait que ces musiciens, quand ils rentraient dans la salle d'enregistrement, ils étaient tous clean. Donc ils les regardaient passer. C'était limite si ils les reniflaient pas au niveau de la laine, ils étaient là. Bon, tous les mecs rentraient. Et le mec rentrait clean, mais il ressortait complètement bourré à la fin de la séance. Il disait, mais comment fait-il? Mais c'est pas possible. Et un jour, il s'est aperçu qu'en fait, le mec, il avait un tube de perf avec une flaque de whisky dans la poche, et pendant qu'il jouait comme au trombone, on tient le trombone de cette manière-là, il avait le câble ici, un petit coup, et il finissait toujours les séances complètement rennaise. Il disait, mais comment il fait? Il a fini par l'avoir, parce qu'en jouant, à un moment donné, il s'est levé du piano, il a fait le tour, et il s'est mis derrière. Parce qu'il fallait qu'il trouve pourquoi. Et Duke Ellington était excessivement exigeant sur la tenue de ses musiciens. Et surtout, bon, en jouant, après, mais surtout sur le stage, sur la scène, et puis en situation de travail, très très exigeant.
On débriefe un petit peu ce qu'on a entendu, ouais. Là, le truc de Coltrane, je te laisse la parole. Hein.
Alors, bon, d'abord, ça montre l'amitié de Coltrane, l'influence de Coltrane aussi chez Roland Kirk. Parce que c'est des hommages, comme il aimait beaucoup rendre hommage à travers la musique qu'il pouvait produire. Son jeu, bah, il est très proche d'être coltranien aussi, puisqu'en fait, c'est des phrases qui sont très coltraniennes, qu'il surdimensionne. Mais, et c'est donc un jeu très, très saxophone qu'il a. Mais en même temps, il ne peut pas s'en... C'est sa nature. Il enrobe ça de toute une couleur sonore, ce qui fait que ce que je disais tout à l'heure, je vous disais hors antenne, je sais pas si c'est passé, mais c'est un gourmet du son, quoi. Donc ça devient une gourmandise, quoi. Quand il joue, ça devient une gourmandise. Ça fleurit, quoi.
Oui, et puis il change de sonorité en cours de route, quoi. C'est absolument incroyable. Et puis quand il fait cette section seul.
Ça, c'est sa touche personnelle, hein. Être une section de sax à lui tout seul.
Alors, il a eu beaucoup de révélations en rêve, hein. Déjà, le fait de changer de nom, ouais. deux fois. Il s'appelait Ronald, ouais. Et puis en fait, il trouvait que Ronald, c'était naze, donc il a commencé par Roland. Et puis après, il est arrivé que...
Quel anagramme, hein, Roland, Ronald.
Oui, ouais, c'est ça, il avait juste changé le truc. Et après, il est arrivé que Dieu lui disait qu'il s'appellerait maintenant Rassahan. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me gourais, je disais Rassahan, mais en fait, c'est Rassahan. Mmh. Et après, Dieu lui a dit que... Alors, c'est toujours pareil, hein, il y a à la fois... c'est toujours un truc qui est très compliqué à comprendre pour nous, l'engagement politique et en même temps spirituel. Donc ça, c'est très particulier aux États-Unis. Et donc, Dieu lui dit qu'il va faire le souffle sphérique. Donc, bon, voilà, c'est... Il y a pas mal de légendes. En fait, non, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'âge de 3 ans, il avait un oncle qui venait jouer du piano, qui jouait bien. Et tout de suite, il a trouvé... il soufflait dans un tuyau d'arrosage pour sortir des sons, en fait, comme dans un trombone. Ouais. Et c'est comme ça que c'est venu. Et je ne sais plus ce que... Oui, il y a aussi une grosse discographie. Parce que on a aussi quand même sorti beaucoup de choses après sa mort. Et puis, ce que je te propose, le prochain, la prochaine émission qu'on fera, ouais, je pense déjà, ouais. On va aussi l'écouter en tant que sideman parce qu'il a joué avec Roy Haynes plusieurs fois. Il a joué alors avec Quincy Jones, qui dans la biographie de Quincy Jones, Quincy dit beaucoup de bien de Roland. Il a joué avec Jackie Billard, il a joué avec Mingus, évidemment, plusieurs fois. Donc, il y a pas mal de choses.
Ah bah, oui.
Alors là, ce que je voudrais, c'est qu'on écoute une partie du concert de Kønsberg en Norvège en 67.
Ouais.
Tu peux nous... Vas-y.
Là, je crois que sur la vidéo, on le voit, il présente les trois instruments, le Stritch, Manzello et son...
Oui, tu peux dire quelques mots sur ces trois...
Alors, on en a déjà parlé, hein, c'est-à-dire qu'il s'est fait faire, à un moment donné, un saxophone alto un tout petit peu droit, quasiment, un peu plus droit, et un saxophone soprano aussi. Il s'est fait faire une lutherie spéciale pour lui, et donc ça a donné le Stritch et le Manzello, qui sont en fait des saxophones, quoi, mais qui sont un modèle un tout petit peu pour lui, quoi, qui sont... Ils n'ont rien de particulier au niveau du jeu. Ça, faut reconnaître qu'au niveau du jeu, ça ne change... Il n'y a pas de... Si on reparle du concert de 76, à partir du moment donné où il est hémiplégique, enfin, il a eu son attaque, et le saxophone qui s'est fait faire, j'ai regardé comment ça fonctionnait, c'est tout à fait intéressant, parce que comme il n'a qu'une main qui marche, c'est la main gauche, il s'est fait faire des rallonges au petit doigt pour les trois trous qu'il ne peut pas faire, les notes qu'il ne peut pas atteindre dans le grave du saxophone. Enfin, il y a toute une technique. Oui, il s'est fait refaire un instrument pour pouvoir pallier au fait qu'il est paralysé d'une main, quoi, d'un bras. C'est particulier, c'est un peu spécial à regarder d'ailleurs.
C'est assez émouvant.
Mais donc la lutherie l'a toujours intéressé. Il a toujours aimé. Comme il est un gourmet du son, bah, il essaye plein de choses. Il se fait faire ces deux instruments. Ça va le permettre justement de aussi combiner plus facilement le jeu à plusieurs instruments. Parce que quand on a le ténor. Et puis à côté des instruments qui sont droits, c'est plus facile à maîtriser. Alors, ils sont droits, mais relativement courbés, parce qu'il faut les attacher, quand même.
Oui, parce qu'il a tout sur lui.
Il a tout sur lui. Donc, on peut pas la... Donc, en fait, elles sont tous accrochées avec un petit anneau, et elles sont tous un peu courbées, parce que c'est beaucoup plus pratique pour le tenir. C'est-à-dire qu'au niveau de la stabilité, ça permet d'avoir un en bourdon, c'est-à-dire qu'il fait toujours la même note quand il en a besoin, et ensuite, il a un saxophone main gauche, et un saxophone qui joue de la main gauche, alors qu'en principe c'est la main droite, alors que c'est la partie main gauche qui joue. Mais par exemple, si on joue les mêmes notes comme ça, là, si on fait les mêmes mouvements, par exemple entre le saxophone alto et le saxophone ténor, eh ben on est en accord, parce qu'il y en a un qui est en si bémol, l'autre qui est en mi bémol, et donc on est en rapport de mi si bémol. Donc on est déjà en harmonie, si vous. Et puis ensuite après, il joue vraiment. Il fait des parties différentes. Il joue vraiment comme du piano, quoi. Je veux dire, pour lui, c'est à chaque fois des. Donc c'est ça qui est tout à fait beaucoup de travail, hein, quand même. Mmh. Beaucoup de travail. Mais très impressionnant. Et donc il a fait faire ces instruments-là pour pouvoir se permettre aussi d'être polyinstrumentiste, en fait. Dans l'espace, ça lui permettait de l'avoir sous la main. Je ne sais pas si on la verra, mais il y a une vidéo où on le voit jouer du ténor et de la clarinette en même temps. Alors le problème de la clarinette, c'est qu'en plus il n'utilise pas un bocal courbé, enfin il n'utilise pas un barillet courbé, donc en fait elle est vraiment droite, elle est tenue par une corde, mais il réussit à jouer des deux instruments. Et la clarinette, elle n'est pas à plateau, donc il faut être très précis au niveau des doigts, des trous, donc c'est déjà un instrument qui est beaucoup plus délicat que le saxophone au niveau de la précision digitale par rapport au fait de boucher les cheminées. Et c'est tout à fait étonnant, parce qu'en plus il arrive à faire bien le souffle continu toujours. Bon. Et l'incidence des becs n'est pas le même, la clarinette descend un peu plus bas, le saxophone est plus à l'horizontale, il arrive à combiner les deux. C'est exceptionnel. C'est très très exceptionnel. Avec la clarinette, c'est coton. C'est beaucoup plus coton qu'il y a deux saxes ou trois saxes. J'ai essayé de le faire.
Et ça a foiré.
Oui. Non, c'est-à-dire que j'ai mis un bout de temps avant de trouver. Bon, moi, c'est pas mon intérêt. Tu vois, c'est simplement pour voir le truc technique, comment le faire. Et c'est complexe, quoi. Surtout qu'on est obligé de manœuvrer la partie, la clarinette, la partie qu'on a d'habitude, on manie à la main gauche. Alors, il utilise un système qui est le système Albert, donc qui est un système qui est proche du système allemand, qui permet plus facilement d'utiliser la main droite à la place de la main gauche. Faut savoir, je m'en suis rendu compte. Par rapport au système de clarinette qu'on utilise, je sais par exemple, à 80%, 90% dans le monde, qui est le système closé-böhm. Et donc, là, il a un petit plus, parce que, effectivement, après, quand il joue à la clarinette normalement, il joue avec une clarinette closé-böhm normale, moderne, sans aucun. Mais là, il joue avec une clarinette ancienne. Et pour la petite histoire, j'ai regardé le ténor qu'il a le plus utilisé. Après, il a eu Selmer, mais le plus utilisé,
Sinking.
Ouais. C'est évident, c'est Lee King. Voilà.
Bon, on va donc écouter un bout du concert en Norvège, donc à Kønsberg en 1967, avec.
Alors, il y a toujours Burton au piano, Nielsen Ørsted Pedersen.
Oui, tout jeune,
un gamin. et Alex Riel à la batterie.
Oui, Alex Riel qui était le batteur maison qui avait joué avec Bill Evans quand, quand Bill Evans était venu, notamment avec Monica Zetterlund. Absolument. C'est parti Laurent, si ça veut bien.
Composition called Blues for Alice. Blues for Alice.
Thank you. brand new composition called Blue Roll. Blue Roll.
Thank you. The shadow of your smile is so beautiful. Talk for thee.
Jazz Libre, Radio Libertaire. Donc bon, ben là, on voit, là tu vas nous débriefer. C'était Blues for Alice de Parker, et puis après
Blue Roi.
Voilà. Et donc quelques petits mots sur cette prestation incroyable là, sur la fin.
D'abord, il y a là, on entend bien la respiration circulaire. On voit la qualité de la respiration circulaire avec vraiment aucune inflexion quand il tient une note. On n'entend pas la respiration. Donc ça, c'est un exemple de sa grande maîtrise. Solo de clarinette aussi. Clarinette, c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il est clarinettiste. Mais ce qui est aussi très impressionnant, c'est qu'en fait, il maîtrise... au niveau du jazz, plein de couleurs et plein de styles de jazz différents qui est dans sa palette. Et c'est vrai qu'il a une sonorité à la clarinette qui est des fois très proche de la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Mais de temps en temps, il se met à avoir des sons droits qui sont beaucoup plus modernes, un timbre un peu plus moderne. C'est une palette de sons et une palette de couleurs absolument, indépendamment de tout le reste, quoi. Mais c'est surtout pour moi, ce qui est important, c'est la palette sonore, quoi.
En fait, ce qui semble être perturbant pour le public et de l'époque, et je pense que maintenant ce serait moins vrai, mais pour l'époque, je pense pas dire de trop grosses conneries, c'est qu'il pouvait jouer Petite Fleur aussi bien que Giant Steps, être complètement dans un discours free radical avec les clusters de notes et passer après à Ma chérie amour de Stevie Wonder ou par exemple des chansons de l'époque. Et donc je pense que c'est ça qui a perturbé. Et dans cet album, justement, quand il joue Petite Fleur, pour lui, c'est un hommage à Sidney Bechet. En plus... Sidney Bechet vivait à Paris, il a eu du succès, donc il y avait quelque chose sur cette relation à la France, et en fait il s'est fait siffler, on était en plein truc du free jazz, donc ils s'attendaient à avoir, en fait si tu veux, que ce soit Rollins, Ornette Coleman, ou quoi que... Ornette, il a fait beaucoup de choses, mais Rollins, Coltrane, bon, ils développaient leur style et puis ils en sortaient pas, ou Bill Evans, ouais, une espèce de sillon comme ça, que lui, en fait, il avait une vision universaliste du jazz.
Ouais, mais je pense que c'est toujours très perturbant. Imagine les jazzmen actuels brusquement décidant de mettre Sidney Bechet à leur programme pour en faire un tribute. Dans le pur style. Je pense qu'il y en a beaucoup qui refuseraient de le faire pour... parce que c'est complètement hors temps. C'est pas qu'ils ne pourraient pas le faire, mais c'est vrai que déjà le public s'y attendrait pas. Le public, il arrive, il attend un produit. C'est comme si... Sonora arrive... Et mettons, j'imagine, Sonora arrive, et c'est la cinquième de Beethoven. Vous imaginez le travail que ça va faire ? Impeccablement joué et tout, on pourrait imaginer. Il arrive, hop, il a des cordes en plus, il dit, ah, c'est curieux, et les mecs, cinquième de Beethoven. Ça passerait pas.
Il y avait un titre d'Ornette Coleman qui s'appelle La cinquième de Beethoven.
Alors que le jazz a justement cette capacité de phagocyter, de digérer toutes les... toutes formes de cultures, de couleurs différentes, que ce soit la musique caribéenne, que ce soit la musique brésilienne, que ce soit le tango, que ce soit... Le jazz a la capacité de prendre ses thèmes, de prendre ses couleurs, et puis de le digérer, et de se l'approprier, et d'en faire une autre œuvre, tout en étant respectueux de l'œuvre. Mais quand tu parlais des cases tout à l'heure avec les... Ben, on est victime de ça, parce qu'en fait, lui, il se retrouve hors case.
Oui, tout le temps.
Parce qu'il disait, oh, mais la musique classique, puis la musique... Ben oui, mais le problème, c'est que t'as un type qui joue superbement bien du romantique, et tout d'un coup, il fait de la musique baroque, et on va le regarder avec un drôle d'air. On dit, ah oui, il le fait aussi. Alors, ça va mettre un certain temps, parce qu'il va s'apercevoir qu'il le fait peut-être très très bien, justement, et que c'est hyper intéressant. Oui, Mais en jazz, c'est pareil. Le type, il est dans un radicalisme free et tout. Et tout d'un coup, il te fait un morceau de Nouvelle-Orléans nickel, nickel chrome, avec super son et tout, propre, tout. Hein. mais on n'est pas venu écouter ça, quoi. On est venu... alors que ce qui prouve aussi que le musicien est aussi un petit peu prisonnier de l'esthétique qu'il développe.
Ouais, c'est ça.
Et lui... Roland Kirk a la particularité de ne pas avoir... Il a son projet, son projet esthétique, mais il n'a pas d'esthétique propre.
En fait, il a
son esthétique propre par sa gourmandise du son, par sa volonté d'utiliser plein de choses et plein d'expériences. Mais d'un autre côté, il est capable de prendre... partout.
Mais dans son esprit, il y avait une valeur...
Et en respect, en plus, parce qu'il faut bien écouter, c'est que quand il joue les thèmes, il y a un respect fondamental. On n'est pas dans le sucre. Ah, je destroy. Non, non, c'est pas de la destruction. Il prend pas un thème en disant « je vais le destroyer hein ». Alors que certains l'ont fait, comme Forest Sanders, etc. Ils ont dit « tiens, on prend ça, puis on lui tord la tronche, on fait ça ». Non, lui, c'est pas le cas. C'est qu'il prend l'objet, il en a un respect, et après, il en fait quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas une question de le détruire ou de le torsader ou de le torturer. Ce n'est pas le problème. C'est qu'il lui donne un autre habillage, une autre couleur. Enfin, moi, je le ressens comme ça.
Il le dit dans ses mémoires, là, justement, qu'en fait, c'était aussi un projet pédagogique. C'est-à-dire qu'il se considérait un peu comme un conservatoire de l'histoire du jazz et qu'il le ressortait parce qu'il disait en classique personne n'est gêné d'écouter Bach, Rachmaninoff, Mozart et compagnie, mais en jazz le New Orleans a disparu, le swing a disparu, et que lui il se disait moi je suis un éducateur. C'est pour ça qu'en fait il voulait faire de la radio, parce que la radio était aussi quelque chose qui permettait de faire passer d'éducation. Et en fait, dans ses concerts, c'est le fait de jouer plein de choses, aussi bien des airs populaires que du jazz coltranien de l'époque, pour lui, c'était aussi une valeur éducative. Il était extrêmement désolé du rap, de la violence du rap, des conneries de ce truc, en disant « même mon peuple noir ne connaît pas la musique classique qu'on joue nous », c'est-à-dire Parker, Coleman Hawkins, Ben Webster et compagnie. Hein. Et donc, c'était aussi, il y avait aussi une démarche parfaitement cohérente et lucide dans son truc. Voilà. On écoute quoi, là, maintenant
C'est... Inflated Tears.
Oui, alors ça aussi, c'est... il faut...
C'est 1967, Prague.
Ouais. Là aussi, The Inflated Tears, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il ait perdu la vue. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, l'histoire, c'est qu'il a... il dit qu'il y a eu une erreur de prescription, que la nourrice lui a mis
un collier trop
qui l'a rendu aveugle. Et pendant très longtemps, il n'arrêtait pas de pleurer, parce qu'il n'arrivait pas à... Et donc, il a passé beaucoup de temps chez l'ophtalmo, mais bon, finalement, ça... Et donc, il a créé ce truc. Mais ce morceau est complètement... C'est un omni, en fait, ce truc.
Absolument.
C'est un objet musical non identifié.
Oui.
C'est un truc hallucinant pour l'époque d'avoir créé ce truc-là. C'est un truc en plusieurs parties.
Oui, mais c'est ce qui fait sa spécificité.
Ah oui, mais c'est incroyable, quoi. On écoute Laurent, hein. C'est parti.
Thank you.